Merci de votre fidélité à Radio Okapi et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous propose ce nouveau numéro. Le bureau de l'Assemblée nationale a autorisé la poursuite des trois députés de l'opposition accusés de faux et usage de faux. Le directeur de cabinet du président de la Chambre basse du Parlement précise que l'autorisation des poursuites accordées par le bureau renvoie à la collecte des informations et non à la levée de l'immunité parlementaire. Certains députés donc estiment que cette démarche est correcte et légitime et suit son cours normal. L'opposition parlementaire poursuit par la démarche du bureau, estimant que ce dernier avait déjà décidé la mise en place d'une commission d'enquête. Comment commentez-vous cette actualité? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 6315 pour votre intervention en direct. Julie Fesabongonde est au standard. J'ai donné Nyangasa à la mise en onde et Pierrot et la Mégie à la réalisation de ce programme. Je suis au micro, moi c'est J.R. Mugebo qui vous présente cette émission et j'ai même le plaisir de coordonner sous la supervision de Martin Sebou Jalou. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Mugebo.
Le procureur général de la République avait sollicité la levée de l'immunité de députés de l'opposition Moïndo Nzangui, Fabien Mouton et Sali Badibanga. Il voulait le poursuivre pour faux usage de faux. Alors le président de l'Assemblée nationale l'avait annoncé au cours de la plénière du jeudi 10 décembre. Alors en date du 21 novembre 2015, le bureau de l'Assemblée nationale avait réceptionné un réquisitoire du procureur général de la République au point d'obtenir la levée de l'immunité des parlementaires que j'ai cités. Alors le président de la Chambre basse du Parlement a fait savoir qu'une commission spéciale allait être mise sur pied à ce sujet. Et c'est ce qui a été fait, mais à ce jour, le même bureau a autorisé en fait la poursuite de ces trois députés par les procureurs et cela fait débat. Maître Sonville, vous êtes à Lubumbashi, vous ouvrez les débats du jour. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Gilbert, bonjour à tous les nouveaux auditeurs de la radio de Participe.
Vous avez la parole. Quel est votre commentaire par rapport à cette actualité?
Bon, de toute façon, Monsieur Gilbert, je vais commencer d'abord par fustiger l'acte commis par le président de l'Assemblée, puisque le président de l'Assemblée, il juge l'immunité en même temps que les autres collègues. Il est devenu président de l'Assemblée puisque il a été élu comme député national. Alors nous savons tous que le texte qui nous régit accorde une certaine immunité aux députés nationaux. Ils ne peuvent pas être poursuivis de n'importe quelle manière, ce ne sont pas des petits citoyens, ce sont des grands citoyens. Ils participent dans l'élaboration, dans le vote des lois qui nous régissent. Lorsque ce problème est arrivé, M. Juillet, moi je ne reconnais pas M. Pierre et M. Eden Makou dans sa casquette de président de l'Assemblée. Moi je le vois qu'il agit en tant que secrétaire général de la majorité présidentielle. Pourquoi je dis cela, M. Juillet? Comme je viens de le dire, il y a une procédure qui est déjà élaborée, qui est déjà connue, qui est déjà bien détectée par la loi. On ne peut pas accorder au procureur général d'entrer en
procession. Maître Sonville, à quel niveau, au fait, cette démarche du bureau entrave à certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale?
Oui, j'y arrive, M. Juillet.
Oui, allez-y rapidement, parce que il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien intervenir dans cette émission. On accorde à chacun une minute.
La procédure, elle est brisée. Il y a vite des procédures. Vous savez qu'il y a eu une commission qui a été instituée pour la cause. Et on devait procéder d'abord, peut-être, à observer le travail qui a été, pour la tâche qui a été confiée à cette commission, avant d'entreprendre une autre démarche. Au-delà de ça, S'il s'agit de la levée de l'unité, cela doit se faire en plénière. Mais nous sommes surpris du fait que le président du bureau a accordé au procureur général d'entamer directement la collecte des données. Là, nous ne sommes pas d'accord. Là, la procédure, elle est biaisée. L'unité doit être respectée.
Oui, oui, maître Sonville, je l'ai dit au début que le directeur de cabinet du président de la Chambre basse du Parlement avait précisé que l'autorisation de poursuite accordée par le bureau renvoie à la collecte des informations et non à la levée de l'immunité parlementaire.
Mais lorsque ça renvoie directement à la collecte des informations, la procédure est déjà en braille. Puisqu'on ne peut jamais procéder même à la collecte des informations aussi longtemps que l'immunité n'est pas levée et aussi longtemps que la tâche qui a été dévolue à la commission qui a été instituée n'est pas encore arrivée à son terme et que cette commission n'a pas encore fait de rapport au niveau du bureau et que ce rapport doit être.
Comment interprétez-vous l'article 105, si je m'abuse, du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale, de la Constitution même d'ailleurs, en cas de flagrant des délits commis par un député dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, le président consulte les bureaux, entend l'intéressé et informe immédiatement l'autorité judiciaire compétente.
Moi, j'estime que ça, c'est une exception quand on parle de la flagrance. Dans le cas de faux, il n'y a pas flagrance. Il serait reproché pour faux et usage de faux. Or, au moment où nous disons tout justice, tout citoyen congolais jouit de la présomption d'innocence. Vous ne pouvez pas, avec vous, en tant que président de l'Assemblée, accorder directement au PSG d'entamer la collecte des informations. Non. Là, moi, je dis non. En cas de flagrance, il y a des conditions là où la flagrance est établie. Dans le cas de cela, il n'y a pas de question de flagrance. C'est une question de droit forêt qui doit suivre la procédure tracée par notre loi congolaise.
Voilà, donc si je comprends bien, Maître Conville, vous rejetez en bloc la position ou l'opinion de certains députés qui estiment que cette démarche est correcte et légitime et sous son cours normal. Donc vous rejoignez plutôt la partie, l'opinion de l'opposition parlementaire qui fustige la démarche du bureau, estimant que ce dernier avait déjà décidé la mise en place d'une commission d'enquête. Il va falloir attendre la décision de cette commission. Merci beaucoup, Maître Conville. Alidor, vous êtes à Kananga. Bonjour Alidor, et bienvenue dans Parole.
Bonjour monsieur, je l'appelle Alidor Moukendi à Kananga.
Vous avez la parole, vous avez suivi Maître Sonville qui en fait a balayé de revers de la main l'opinion de certains députés qui estiment que cette démarche est correcte et légitime et sous son cours normal.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, je n'ai pas beaucoup de commentaires à mettre, mais moi, je voudrais donner aussi ma opinion. Souvent, à l'Assemblée nationale, s'il y a quand même de l'opposition, il y a toujours les gens qui se lèvent pour dire non, l'opposant a fait ça. Avec les trois députés qui sont faire une lettre, il y a une signature d'un député qui n'était pas au courant. Oh oui. Mais pourquoi l'Assemblée nationale, chaque jour, s'il y a un problème à l'opposition, il n'y a pas de mesures. Là, tout le monde va se parler. Mais pourquoi ça? Je demande à M. Obe Minako qui se retire de ça. Nous sommes dans une table où tout le monde
est d'accord. Alidor, je crois que nous devons rester juridiques également dans nos réflexions, dans nos analyses. Aujourd'hui, le bureau a précisé qu'il s'agit là juste d'une voie de collecte d'informations et non de la levée de l'immunité. Donc je crois que le problème ne se pose pas, parce que c'est une procédure normale.
Parce que souvent quand on dit le faisant, tout le monde se lève. Vous voyez, nous avons une cour qui est vraiment à la poche de quelqu'un. Au risque d'aller là-bas et d'être condamné.
Merci beaucoup, Alidor. Merci beaucoup. Voilà, je disais tantôt donc nous devons rester dans les débats, la thématique, et non, nous engager dans un débat sur les individus, parce que je l'ai dit tantôt, le bureau de l'Assemblée nationale a autorisé la poursuite des trois députés de l'opposition accusés de faux et usage de faux. Le directeur de cabinet du président de la Chambre basse du Parlement précise que l'autorisation de poursuite accordée par le bureau renvoie plutôt à la collecte des informations et non à la levée de l'immunité parlementaire. Certains députés estiment que cette démarche est correcte et légitime et suit son cours normal. Alors l'opposition parlementaire fustige la démarche du bureau, estimant que ce dernier avait déjà décidé la mise en place d'une commission d'enquête. Comment commentez-vous cette actualité? 081-890-7315 pour votre intervention directe.
Parole aux auditeurs.
Voilà, on va prendre Amissi qui est à Kindu. Amissi, bonjour. Amissi, vous êtes avec nous?
Justement, d'accord, je suis avec vous.
Vous avez la parole.
Ok, d'accord. Et s'il vous plaît, messieurs les journalistes, s'il y a un invité au plateau, j'aimerais tout simplement dire ceci. Mohindo Zhang, c'est un député élu dans la circonscription de Goma. C'est un député de valeur. Il a été élu parce que lui a voulu et la population a voulu qu'il soit ce qu'il est. Alors, moi je n'arrive pas à comprendre. Bientôt, nous irons aux élections. Pourquoi on doit avoir de telles démarches? C'est une façon aussi d'attiser le feu. Parce que ces messieurs-là se retrouvent dans l'opposition, on veut les attaquer juste pour fragiliser cette opposition. Voilà, moi je trouve que c'est une stratégie politique et non juridique. Pourquoi on doit qu'il soit d'abord ça? Voilà, si c'est une bonne procédure, pourquoi on ne doit pas attendre la commission d'enquête? Et s'il y avait une commission d'enquête, qu'on publie d'abord les rapports de cette commission d'enquête avant de procéder à la poursuite de ces députés. Voilà, ça pouvait arranger les choses. Voilà, c'est que moi, ma contribution, je voulais dire à la majorité. Mais la majorité ne doit pas avoir peur de l'opposition.
Oui, est-ce que vous ne signez pas comme les autres que, effectivement, c'est une démarche normale, qui est correcte, légitime, et qui suit son cours normal? Parce que jusque-là, les trois députés ne sont pas condamnés. On n'a pas procédé à la levée de leur immunité.
Voilà, juste ça, parce que la démarche, voilà, le fait là, c'est une faute, bien sûr. Parce que en droit, on dit que voilà, ces gens-là, jusque-là, ils ne sont pas coupables. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un rapport de la commission d'enquête. Parce qu'avant de procéder à la levée de leur immunité, il faudrait procéder d'abord à l'exploitation, à l'étude des rapports de la commission d'enquête. Voilà, c'est juste aller vite, vite là, et dans un dossier, pendant que le dossier est en cours. C'est cette procédure devrait, on devrait arriver à cette procédure juste après le rapport de la commission d'enquête. C'est juste ça.
Voilà, merci beaucoup, Amici. 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Nous recevons dans ce studio François Nzekouye, qui est honorable député à l'Assemblée nationale. Bonjour, honorable député.
Bonjour.
Voilà, vous venez de suivre la réaction donc de ces premiers auditeurs qui ont eu l'occasion d'ouvrir les débats avec nous par rapport à cette question. Mais d'abord, le rappel de fait, de manière un peu historique. Disons, nous sommes partis d'où? C'est quoi les problèmes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on reproche à ces trois députés?
Et merci pour la parole. D'abord, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi. Il est à relever qu'il y a eu une pétition contre le bureau de l'Assemblée initiée essentiellement par les députés de l'opposition. Et les personnes qui ont présidé à cette pétition sont les honorables Sami Badibanga Ntita, l'honorable Fabien Moutom Kan Kato et Mohindo Zangi Butondo. Et il se révèle qu'avant le traitement de la fameuse pétition, l'honorable député Yala Tatutu, de l'opposition également, prend la parole pour dénoncer le fait que sa signature a été apposée à la pétition sans son autorisation. Ce qui est constitutif d'une infraction de faux et usage de faux, qui est qualifié à l'article 124, 125 et 126 du Code pénal livre 2. Et donc, le procureur général de la République s'est saisi de l'affaire et a demandé effectivement au mois de novembre de l'année dernière une demande à lever d'immunité de ces députés pour être poursuivis. Ce qui a été fait par l'Assemblée générale est que l'Assemblée ayant reçu ces réquisitoires du procureur général de la République a constitué effectivement une commission. Mais la commission n'a pas pu siéger jusqu'à la clôture de la session de septembre. Entre-temps, au mois de janvier, le procureur général de la République a émis un autre réquisitoire pour la même cause. Et le bureau de l'Assemblée nationale, en examinant ces réquisitoires, s'est rendu compte que le procureur général de la République ou le ministère public n'a pas fait dès l'application de l'article 75 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation qui institue une procédure d'instruction avant une demande élevée d'immunité. Et c'est à ce niveau que nous sommes. Je dois corriger les termes que vous utilisez, vous et les auditeurs, que l'Assemblée nationale a autorisé des poursuites. Non, l'Assemblée nationale n'a fait qu'autoriser l'instruction judiciaire. Et nous savons que l'instruction s'est faite à charge ou à décharge. Ça veut dire que le procureur général de la République est autorisé à mener des enquêtes pour attester les faits allégués par l'honorable Yaya Toutou ou les infirmer. Et par conséquent, si le procureur général de la République a une intime conviction que l'infraction est constituée, à ce moment-là, il demandera une levée d'immunité conformément à l'article 77 de la loi organique citée, la loi organique 13/10, pour que l'Assemblée nationale lève les immunités. Et dans ce contexte, nous devons rappeler que le bureau de l'Assemblée nationale a eu la sagesse de lire effectivement cette loi organique comme il se doit et rappeler qu'il faut une phase d'instruction. Et donc, il reviendra au moment opportun, si le procureur de la République a l'intime conviction que les faits allégués par l'honorable Yala Toutou sont effectivement ont été commis par les incriminés, à ce moment-là, il demandera la levée d'immunité et cela, c'est la plénière qui décidera. Mais cela ne veut pas dire que le bureau d'assemblée n'a pas le pouvoir. Lisez l'article 105 de la Constitution qui reconnaît au bureau de l'Assemblée nationale, en période de vacances parlementaires, le droit de se substituer à la plénière quant à ce qui concerne la levée de l'immunité. Le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas usé de ce droit. Il aurait pu le faire, mais il ne l'a pas fait. Et donc, c'est pour dire que le bureau de l'Assemblée nationale...
Est-ce que ce n'est pas une façon de punir ces trois députés parce qu'ils ont été, en fait, auteurs de cette motion de défiance contre le bureau?
Non, s'ils n'avaient commis aucune faute, ils n'auraient pas matière à ce que les procureurs s'en saisissent. Si les procureurs s'en saisissent dans la démarche qu'ils ont faite, si elle était régulière, il n'y aurait pas eu de problème. Le problème repose dans le fait qu'il y a eu violation de la loi. Et là, je dois rappeler que les parlementaires ne sont pas exempts du respect de la loi. Parce que c'est nous qui élaborons les lois.
Mais ça, nous assistons à une position, à une attitude du bureau de manière un peu géométrique. Parce qu'à une certaine époque, il y a eu ce dossier avec l'entreprise Yambo, où un député, pour ne pas citer son nom ici, qui a été mis une main dans les sacs, et à ce moment-là, les procureurs avaient même demandé la levée de l'unité de ce député. La majorité s'est liée comme un seul homme pour éviter à ce que ce député soit sanctionné. Mais aujourd'hui, la vitesse avec laquelle on s'emploie pour, en fait, amonter, comme vous l'avez dit, l'instruction judiciaire, d'autre part de la poursuite judiciaire des opposants, on se rend compte qu'il y a du tourange.
Non, mais est-ce que quand les procureurs généraux de la République, en respect des séparations de pouvoir, envoient conformément à la loi un réquisitoire pour lever l'immunité ou pour l'instruction, est-ce que le bureau de l'Assemblée nationale a le pouvoir de se taire? C'est la question que vous devez vous poser. Si l'initiative doit venir de l'Assemblée nationale, là, le problème se pose autrement. Mais ici, le bureau de l'Assemblée nationale a reçu les réquisitoires conformément aux dispositions de la loi qui est
peu. On sait qu'à un certain moment, en plein plénière, le président du bureau avait annoncé lui-même de pouvoir saisir les instances judiciaires par rapport à cette affaire.
Oui.
Nous nous en souvenons parce qu'il a dit ouvertement.
C'est vrai que le président.
Qui fait partie de lui,
c'est vrai. Non, c'est vrai que le président, l'effet de le dire.
C'est la disposition intentionnelle.
Non, le fait de dire quelque chose ne signifie pas qu'on pose l'acte.
Et la vitesse avec laquelle le procureur est entré dans l'intention.
Non, je ne crois pas que le procureur soit entré dans l'intention. De toute façon, il y a quand même un certain nombre de faits qui se sont produits à l'Assemblée nationale, et à un moment donné, il fallait tirer la sonnette d'alarme pour que les parlementaires que nous sommes ne croient pas que nous sommes au-dessus de la loi. J'ai entendu Maître Stonville qui s'insurgeait contre la procédure, que c'est illégal. Est-ce qu'a-t-il lu, lui, la loi numéro 13-010 et particulièrement à ses articles 73, 74, 75 et 77? Parce que ce chapitre consacre des poursuites contre les membres du Parlement. A-t-il lu cela avant de parler? Parce qu'il ne suffit pas d'être avocat pour connaître la loi. La loi, il y a plusieurs lois qui sont dans notre pays et par moment, ça nous échappe. Nous-mêmes, parlementaires, nous n'utilisons pas toutes les lois. Et donc, les bureaux de l'Assemblée nationale, s'ils s'opposaient à répondre aux résultats du procureur, ce serait faire une obstruction à la justice. Et c'est une obstruction.
Les institutions,
voilà, indépendantes. Mm-hmm. Parce que vous ne l'avez pas dit. Quand vous lisez la pétition des députés de l'opposition, vous lisez de l'amalgame là-dedans. Ils disent que on n'a pas respecté la séparation du pouvoir parce que cette affaire relève de la compétence de l'Assemblée nationale. Non. Quand une infraction est commise, et là, je voudrais bien que vous m'autorisiez à lire l'article 73 de la loi organique qui donne des lumières sur cette matière, parce qu'il faut quand même que nous puissions jouer un rôle éducatif quand nous venons d'humilier. L'article 73 de la loi organique numéro 13-010, 19 février 2013, dit ceci. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon les cas. En dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive. Là où c'est plus intéressant, même dans les cas où les faits seraient flagrants ou réputés tels, la chambre dont il relève décide en cours d'instruction d'une cause de suspendre les poursuites et la détention des membres de la chambre. Cette décision est immédiatement exécutoire, mais elle cesse de produire ses effets dès la clôture de la session. C'est le premier aspect qui garantit le droit des députés. Mais l'article 15 dit ceci également. L'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public qui reçoit une plainte, une dénonciation ou constate, c'est là que nous sommes, ou constate l'existence d'une infraction, même flagrante, à charge d'une personne qui, au moment de la plainte ou du constat, est membre du Parlement, transmet son procès verbal directement au procureur général près de la Cour de cassation et en avise le chef hiérarchique de l'ordre judiciaire. Le procureur général près de la Cour de cassation en informe le bureau de la Chambre dont relève le Parlement.
Alors, il y a la loi qui, en fait, stipule également qu'il est constitué par la plénière une commission spéciale chargée de l'examen de toute demande de lever de l'immunité.
Oui.
Voilà. Alors, où en est-on aujourd'hui parce qu'il y avait une commission par rapport à cet article?
Ce que nous disons, nous venons de rentrer pour la session de mars. Mais en tout cas, ces faits dont nous sommes en train de parler se sont posés pendant les vacances parlementaires. Et donc, il est clair que,
étant donné,
étant donné que nous sommes en session parlementaire, logiquement, cette commission va continuer son travail et produira son rapport, parce que dans tous les cas,
et si les procureurs de la même manière, anticiper par exemple pour directement demander la levée.
Non, je crois que
avant les résultats de la commission,
ce n'est pas mettre la charrue devant les bœufs, c'est faire droit. Le procureur a le droit de le faire. Si la phase d'instruction est terminée et il a l'intime conviction que les personnes incriminées sont avérées, il demande la levée d'immunité. Mais il nous revient maintenant, nous, à l'Assemblée nationale, d'examiner ces réquisitoires et de décider de la levée d'immunité. Et donc, le pouvoir de l'Assemblée nationale reste maintenu. On ne pourra pas arrêter, ni détenir, ni encore poursuivre ses collègues, voilà, tant que l'Assemblée nationale n'aura pas levé
l'immunité. On va revivre le standard avec le professeur Ignace. Professeur Ignace, vous êtes à Colombie, Philippe Akindou, Madame Bibi Chakistanali. Professeur Ignace, merci de nous avoir rejoint. Bonjour.
Bonjour, J.R. Bonjour, l'honorable Nzekiye. Je suis souvent à la radio. Je constate que là, il y a un problème. et tout le monde le constate avec moi, que l'interprétation des textes, notre loi, le règlement d'ordre intérieur, pose des problèmes au niveau de nos députés, que ce soit de l'opposition ou de la majorité. Mais il est vrai que les députés sont statutairement considérés comme des honorables. Mais cette honorabilité, passez-moi le terme, n'est pas dans une situation d'exception pour qu'ils se permettent de faire n'importe quoi. Un honorable, c'est quelqu'un qui doit avoir un comportement exemplaire et modèle, étant donné qu'ils sont du pouvoir législatif, donc appelés à contrôler, n'est-ce pas, contrôler l'exécution de lois qu'ils légifèrent, et aussi contrôler leur propre conduite. Ils doivent servir de modèle, comme je l'ai dit. Ils ne sont pas des citoyens permis à tout faire. Mais il y a aussi une autre vérité. Il y a une situation de flagrance, c'est que à ce qui a été fait, et le fait s'avérait vrai, c'est vraiment, permettez-moi même ridicule que cela se passe au niveau de l'Assemblée où se trouvent les honorables citoyens. Là où les choses ne sont pas aussi correctes, c'est le fait que l'Assemblée nationale avait initié déjà une commission. Je crois que beaucoup d'entre nous le diront, ils vont y revenir. Il y avait déjà une commission. On ne peut pas accepter que pendant qu'il y a une commission d'enquête qui est instituée, que la même assemblée autorise, n'est-ce pas, le PGR de commencer déjà une autre procédure avant que la première n'ait été fin. Je crois que là, les choses ne sont pas très claires. C'est comme qui dirait, il y a en vue sous roche. Je ne soupçonne pas quelque chose, mais ça se prête pratiquement de cette façon. Hein. Alors, il y a aussi une leçon à tirer dans cette histoire. C'est que nos députés devraient faire attention quant à aux actes qu'ils sont en train de poser, parce que ce sont nos représentants et nous qui sommes électeurs. Cela nous choque qu'on voit une si grande institution et ses animateurs se retrouver dans cette situation. J'aurais dit encore ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un problème d'interprétation des textes, non seulement à ces niveaux, il y en a eu encore bien avant cette situation. Donc voilà à peu près ma préoccupation, mais si le soi ou les autres opposants sont, ne se reprochent de rien, je crois qu'ils devraient s'apaiser et laisser la procédure continuer. Mais encore une fois, on doit instruire, on doit encore remettre nos députés à l'école de l'apprentissage des textes qui régissent nos institutions.
Merci. Voilà, c'est pour ce moment. Merci beaucoup, professeur Ignace. Philippe, vous êtes à Kindou. Bonjour, Philippe.
Bonjour, bonjour, JR, et bonjour, l'invité, l'honorable, et bonjour, les auditeurs de la radio, qui à travers le monde.
Oui, Philippe, oui.
J'aimerais juste donner le point de vue par rapport à ce qui se passe. Moi, je suis d'abord d'avis avec la procédure du bureau de l'Assemblée nationale. Mm-hmm. Je suis d'abord d'avis. Pourquoi JR? Parce qu'on devrait un peu comprendre les choses en clair. Si du moins les opposants ou les présumés, ça c'est la matière juridique, il est d'abord il suit de la présomption d'innocence. Mais en politique, c'est là aussi dit qu'il n'est pas permis l'honorable, un poste noble, il n'est pas permis de voir honorable en faute. D'abord, ça c'est en matière politique. Je reviens en matière aussi sociale en disant que si la procédure doit être jusqu'à ce que la culpabilité de la personne soit établie. Cela prouve que l'État congolais commence à réfléchir sur le respect des droits communs. Ce n'est pas aussi avoir que moi, je suis honorable tel X, Y, je dois faire de n'importe quoi. Moi, j'aimerais inscrire cette procédure en matière de droit. Parce que ça fait aussi respecter l'État congolais en matière de droit. J'entre aussi au volet social. En disant ceci, JR, pouvez-vous imaginer la personne qui est à la cuisine, est en train de faire de basil, et que êtes-vous sûr que le repas qui sortira de la cuisine sortira
en bonne
santé?
Merci beaucoup.
C'est même les députés. C'est même les députés qui façonnent la loi.
Merci. Alors là vous rejoignez clairement la position du professeur Elias qui évoquait tout à l'heure l'interprétation de loi qui pose jusque-là problème et du côté du public et aussi de ceux qui sont censés interpréter cette loi, c'est-à-dire les législateurs. Merci beaucoup, Philippe. Madame Bibiche, vous êtes à Kisangani, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Vous avez la parole. Quel est votre avis? Parce que il y a les uns qui ont évoqué la stratégie politique et non juridique dans cette affaire, et d'autres encore sont allés plus loin pour dire, mais voilà, nous tombons là dans le principe de deux fois deux mesures, et qu'il y a un cul sous roche. Est-ce que vous avez la même lecture?
Oui, oui. Merci d'abord pour m'accorder la parole. Ma préoccupation est adressée à l'invité du jour. Moi, j'aborde dans le même sens qu'il y a le principe de deux poids, deux mesures. C'est là que je trouve à quoi? J'ai une petite question. Est-ce que l'invité peut se rappeler à une motion initiée contre l'ancien ministre
de la cimenterie
oui, de oui, de la cimenterie de il y a un député qui s'est mis debout pour retirer les signatures des autres députés qui n'ont pas retiré effectivement et normalement leur signature. Et ça suscitait ce que nous tous, nous avons suivi. Comment l'invité peut qualifier cette procédure-là? Pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas fait appel au procureur général de la République? Aussi, je m'excuse, il y a une plainte que Madame Eve avait fait sur une, je ne sais pas si c'était une marque, là où les gens ont venu avec des armes. Alors pourquoi l'Assemblée jusque-là et l'Assemblée nationale et le procureur général jusqu'à nos jours, ils n'ont jamais ouvert une action contre tous ces mondes-là?
Merci beaucoup, Madame Bibiche, d'avoir évoqué des faits que vous estimez être un peu avérés et qui témoigne à suffisance des cas d'injustice au fait dans la manière de faire, et là on tombe carrément, comme vous l'avez dit, dans la politique de deux poids deux mesures. Omar, Maître Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Maître Omar.
Bonjour cher William, bonjour à l'invité.
Vous avez la parole, Maître Omar. Quel est votre avis?
Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup Gilles, pour ce débat houleux et intéressant pour la nation. Avant tout, j'ai quelques observations à faire par rapport à ce que l'invité a dit. Il a parlé du réquisitoire du procureur général. Au niveau de l'instruction préjuridictionnelle, on ne parle pas du réquisitoire. C'est un document ou un acte que le procureur pose pendant le discours lorsqu'il demande l'appel.
Mm-hmm.
Et deux, il a encore dit que la poursuite ne veut pas dire instruction. Moi, je pense que c'est faux. Parce que lorsque le procureur poursuit, le mot déterminer englobe beaucoup d'éléments. Ok. Les instructions sont également écrites dans la poursuite.
Dans la poursuite.
Ils ne confondent pas la constatation de l'infraction, la poursuite de son auteur, ainsi que la transmission du prévenu au tribunal ou à la cour.
Et même pour vous compléter, même l'organique parle de la détention ou la poursuite d'un député. Donc juste pour vous compléter quelque part ou dans une des dispositions, la loi parle de la détention ou la poursuite d'un député.
Alors, je voudrais finir par donner ces trois points. Premièrement,
Nous sommes un état de droit et toute personne, fût-elle parlementaire, lorsqu'elle contrevient au principe de la nation, doit être poursuivie. Là, le débat ne soit pas ne doit plus pas se poser. Et deux, il faut que les gens comprennent que nous sommes tous égaux devant la loi. Mais certaines personnes, par rapport à la sensibilité de leurs fonctions, bénéficient de certains privilèges qu'on appelle immunité. Il s'agit des députés, des sénateurs, ainsi que de parlementaires ou encore des diplomates. Mais ces immunités peuvent des fois être bloquées, comme l'a dit l'invité, lorsqu'ils commettent une infraction flagrante, ici et maintenant. Et des deux, lorsque le bureau l'autorise. Là, c'est encore une observation. Et des trois, c'est par là que je chiffre. Nous savons et nous sommes conscients que le procureur a le pouvoir, tel que la loi lui donne, de poursuivre toute infraction. Et dans le cas des députés, si leurs immunités sont levées, si le bureau autorise, ils ne peuvent pas les poursuivre. Mais nous interpellons tout acteur politique congolais à la moralisation de la vie politique. Il faut que les opposants ne pensent pas qu'ils sont des super-hommes. Le simple fait d'être opposant ne fait pas de vous un super-homme. On peut être opposant, mais lorsqu'on contrevient aux lois de la République, on doit être poursuivi. On doit avoir, comme l'a dit l'invité, une certaine éducation politique. Et ce, voilà. La majorité doit aussi cesser de manipuler. Il y a une certaine dictature du pouvoir de l'Assemblée nationale qui fait qu'être une caisse de résonance dans l'enregistrement des décisions gouvernementales. Pour ça que je l'ai dit. Et nous avons assisté, je vous donne un seul cas patin, à des bagarres à l'Assemblée nationale. Des gens ont été cités. Nous n'avons vu aucune action du procureur général. Il y a eu beaucoup d'autres cas très patins. Nous n'avons eu aucune action. Mais chaque fois que je dis d'un opposant, on voit un certain acharnement. Nous ne pouvons pas attendre que le juriste suspecte cette démarche. Mais les faits sont patents et devant l'évidence, on s'incline. Je voudrais finir par demander aussi au procureur général, ainsi qu'à l'ensemble des pouvoirs judiciaires, d'être conscients. Le simple fait de poursuivre ne fait pas de vous dépendant des pouvoirs exécutifs ou parlementaires. L'on doit se quitter de sa casquette politique et faire réellement le travail. J'y ai toutes ces questions de conscience. On est opposant, on est de la majorité, mais nous sommes un état de droit, on doit respecter les lois. Et des deux, vous qui avez le pouvoir de diriger ou encore de dire le droit, vous devez le voir de façon
exemplaire. Merci beaucoup.
La majorité ne doit pas se confondre à la majorité présidentielle. C'est une majorité parlementaire. On doit éviter de minimiser la minorité, car dans une démocratie, toute personne est importante.
Merci. Voilà ma petite conclusion. Merci beaucoup, Omar, d'avoir contribué dans cette émission. Nous revenons à vous, François Écuyer, honorable. Vous venez de suivre cette série des auditeurs. Comment vous réagissez? La question sur la stratégie politique et non juridique, la politique de deux poids, deux mesures. Aujourd'hui, d'aucuns estiment que, mais c'est vrai, la loi ne donne pas, en fait, l'avantage aux députés d'être au-dessus de la loi, mais c'est plutôt le procureur qui peut poursuivre à n'importe quel moment, en fait, les députés qui tombent sous le coup, peut-être, de la loi. Alors, comment vous réagissez par rapport à tout ce que les uns et les autres ont dit?
Mais d'abord, je devais revenir dans Philippe, celui qui a dit manière politique. Non, je l'ai dit déjà à l'introduction de ce débat. Le bureau de l'Assemblée nationale avait les mains liées face à la demande du procureur général de la République. On ne pouvait pas en faire autrement. Les dossiers des cimenteries où il y a eu bagarre à l'Assemblée nationale, on doit savoir que
il y a eu
des mesures disciplinaires qui sont allées jusqu'à l'exclusion de l'enceinte du parler du peuple et privation des salaires des députés pendant 3 mois. Ça veut dire que nous avons déjà sanctionné à notre niveau. C'est pour cela que par moment, il faut se dire qu'on ne doit pas toujours livrer ses enfants au bureau, dès lors qu'on peut les sanctionner soi-même.
Parce qu'il s'agit là d'un cas de jurisprudence. Ne soyez pas.
Non, mais ce que j'ai dit, ce n'est pas le bureau de l'Assemblée nationale qui a livré les collègues au procureur de la République. Le procureur de la République a constaté l'infraction et a contacté les parties.
Parce que l'Assemblée a le dernier mot, il pouvait aussi dire que voilà, on va continuer à attendre. Mmh. Parce que Maître Omar a expliqué un peu les réquisitoires.
Oui, je vais revenir sur ce qu'il a dit. Mmh. Non. Le fait effectivement d'autoriser l'instruction, ça veut dire quoi? L'instruction ne se fait pas en un jour. L'instruction sur le dossier Bemba a fait combien de temps à la Cour pénale internationale? Des années. Et donc l'instruction, c'est aussi une manière pour le Parlement de dire on attend que la plénière revienne et prenne ses décisions. Et donc, Maître Omar fait la différence entre réquisitoire, on ne peut pas parler de réquisitoire, c'est ça. Non, c'est faux, Maître. Je vous lis l'article 75 de la loi suscité vers la fin, ou je peux le lire entièrement, pour c'est pas long. sauf dans les cas où les parlementaires peuvent être poursuivis ou détenus sans autorisation préalable de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de leur bureau, selon les cas, si le procureur général, après la Cour de cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action publique, il adresse au bureau de la Chambre dont fait partie les parlementaires un réquisitoire au fin de l'instruction. Ça, les termes de la loi.
Oui, le maître Omar a dit la poursuite, en fait, l'instruction.
Je vais revenir sur cette question-là. Mm-hmm. Il a dit qu'à ce stade, on ne parle pas de réquisitoire, on parle de demande d'information. C'est un réquisitoire au terme de la loi. Mm-hmm. Moi, je ne parle pas en des termes courants. Mm-hmm. Je parle au terme de la loi. Alors, il dit que poursuite, instruction, non. C'est au terme, encore une fois, de la loi. À l'article 117 de la loi numéro 13, il est dit clairement ceci. Si le procureur général estime devoir traduire l'inculpé devant la cour, il adresse un réquisitoire au bureau de la Chambre, dont fait partie les parlementaires, afin d'obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite. Ça veut dire qu'à ce niveau-ci, il n'a pas encore l'autorisation de poursuite. L'autorisation de poursuite ne lui sera accordée qu'après l'autorisation de la levée des immunités.
Voilà. Nous sommes déversés dans la guerre sémantique.
Non, il a relevé des questions juridiques. Voilà. Je lui réponds avec les termes de la loi, voilà, qui différencie l'autorisation d'instruction et l'autorisation de poursuite, qui n'est que conséquent. Alors, après
la levée. Permettez à François Zécouillet, honorable, on va écouter deux auditeurs, Marcel et Kéchessa, José Azongo. Marcel, vous nous avez rejoint. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs, Marcel.
Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole. Quel est votre avis par rapport à cette actualité?
Merci beaucoup. C'est un sujet d'actualité très intéressant. Et je voudrais d'abord rappeler à tous mes compatriotes que lorsqu'on est dans un état de droit, l'état de droit suppose également la justice. Et que la démocratie en est une conséquence. Donc, ce n'est pas parce qu'on est en démocratie ou on est, je ne sais pas, parlementaire, qu'on doit se passer des lois de la République. On ne peut pas vouloir faire la démocratie ou vivre la démocratie et s'insurger contre les procédures judiciaires. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec le courage de l'ensemble, du président de l'Assemblée nationale, parce que ça, au moins, ça prouve combien on veut que les choses aillent de l'avant.
Mais vous ne pensez pas, Marcel, comme les autres, que si c'était par exemple des cas des députés de la majorité, ça aurait été quand même une valeur ajoutée pour la démocratie au sein de l'hémicycle? Non, parce que dans le cas ici, quand il s'agit simplement de l'opposition.
Nous sommes des Congolais. Et la loi dit que tout Congolais est égal devant la loi. C'est-à-dire quand quelqu'un commet une infraction et que ça vaut la peine de le poursuivre, on le poursuit. Ce n'est pas parce que hier, une personne a volé et que la police n'a pas mis la main sur lui, qu'aujourd'hui, celui qui vole, on doit le laisser continuellement voler sur ces airs-là, parce que hier on n'a pas arrêté.
Personne n'est au-dessus de la loi. Merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup, Marcel. On va prendre le député Moutombe. Député Moutombe, vous êtes avec nous?
Oui, Fabien Moutombe est en ligne.
Voilà, vous avez la parole. Quel est votre avis par rapport à cette thématique?
En principe, ce problème, il est purement politique. Les grands problèmes, il faudrait d'abord expliquer aux auditeurs les buts de cette pétition. La pétition, là, a été initiée pour déchoir l'ensemble du bureau de l'Assemblée nationale pour mauvaise gouvernance. La première erreur au niveau du traitement de ces dossiers, c'est la convocation de cette plénière par le président de l'Assemblée nationale qui lui-même est mis en cause. L'article 26 du règlement intérieur, alinéa 3, stipule: lorsque le président de l'Assemblée nationale est mis en cause, l'Assemblée plénière est convoquée et présidée par le membre préséant. Lorsque l'ensemble du bureau est mis en cause, l'Assemblée plénière est présidée par le doyen d'âge. C'est ça n'a pas été le cas. Premier point. Deuxième point. Alors qu'au niveau de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 41 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on avait déjà initié une commission spéciale pour traiter ce problème. Ce problème, ce cas n'est pas intervenu pendant les vacances parlementaires, puisque la plénière là dont il est question, c'était au mois de décembre, pendant que nous étions en pleine session. Il a été décidé de mettre sur pied une commission spéciale pouvant analyser ce cas, et cette commission reviendrait à l'auguste assemblée plénière, faire rapport, quitte à la plénière, d'en décider. Mmh. Et cela non plus n'a pas été le cas. Mais maintenant, qu'est-ce que nous avons fait à notre niveau? Étant donné que nous savions pertinemment bien que cette question était purement politique, nous avons répondu à l'invitation du procureur général de la République. Laissez-moi vous dire qu'avant cela, il y a 9 députés, puisqu'on n'en parle pas, puisqu'on ne parle pas de l'origine de la pétition, qui se sont portés garants en écrivant au bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont vu notre collègue apposer sa signature. Au-delà de ça, on est tombé sur un document du mois d'octobre 2014 où notre collègue a apposé sa signature sur la pétition initiée contre le ministre délégué aux Finances. Voilà un peu, c'est pour vous dire tout simplement que la démocratie est en danger en République démocratique.
Oui, monsieur la démocratie, c'est pas bien.
Ce n'est pas seulement l'orgueil.
Oui, honorable, pas bien. Je crois que vous avez votre manière à vous peut-être d'interpréter également le code pénal livre 2, en ses articles 124, 125, 126, qui parle de sanctions à accorder quand il s'agit des cas de faux usage de faux.
Oui, bon, mais enfin, nous n'en sommes pas encore là. Je vous explique d'abord les prémices. Comment est-ce qu'on a violé les prémices? Le président de l'Assemblée nationale, conformément à l'article que je venais de citer, il ne pouvait pas, je vous ai très bien dit, l'article 26,
présider,
alinéa 3. C'est clair. Le président de l'Assemblée nationale, puisque lui-même était mis en cause, c'est l'ensemble du bureau pour mauvaise gestion. Vous voyez un peu. On devrait, en ce moment-là, le président de l'Assemblée devrait se mettre de côté et laisser le membre préséant diriger, préséant ou à la limite, le doyen d'âge présider cette plénière. Nous sommes respectueux du droit, nous respectons l'institution judiciaire, raison pour laquelle nous n'avons pas eu peur, puisque nous savons très bien que la raison est de notre côté. Merci. Et que la peur a choisi son camp.
Merci beaucoup.
Vous savez, lorsque un pouvoir n'a plus d'arguments, il ne lui reste que la répression pour faire peur.
Merci beaucoup.
Et la peur ne fait pas partie de notre vocabulaire.
Merci beaucoup, honorable député Fabien Mouton. On prend José qui est à Zongo. José, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, j'appelle depuis dans la ville des Zongo. J'ai vraiment suivi avec beaucoup d'intérêt les débats. Et j'allais dire que je pense bien que le président de l'Assemblée nationale veut se faire justice. Il faut le reconnaître. Parce que, à mon sens, je vois qu'il y a beaucoup de dossiers qui sont restés comme ça, sans qu'on puisse traiter ces dossiers-là. Je prendrai les cas de moratoire sur la nationalité. Il y a, on dit, la constitution de notre pays dit que la nationalité congolaise, elle est exclusive. Mais vous verrez qu'il y a des hommes d'État dans ce pays, même au sein de l'Assemblée nationale.
Là, on risque de faire de l'amalgame. Est-ce qu'on peut rester un peu dans les sujets? Et vous êtes d'avis que cette démarche est correcte et légitime et suit son cours normal? Ou bien vous partagez l'avis selon lequel, comme l'opposition parlementaire, qui utilise la démarche du bureau, en estimant que ces derniers avaient déjà décidé la mise en place d'une commission d'enquête et il faudrait attendre le résultat de cette commission d'enquête pour, en fait, statuer sur quoi que ce soit?
Je pense que le Parlement a un règlement intérieur. C'est un Parlement qui est régi à sa manière avec les règlements qui s'étalent sur la constitution de notre pays. Donc il faudrait bien qu'on attende le résultat de l'enquête mise en place par le Parlement, parce que ce sont des honorables députés, comme on l'a dit. Moi, je pense qu'Obiang Mina pouvait se faire justice là, parce qu'il met un décès. C'est sa gestion qui est un défi et il veut se faire justice justement pour punir ceux qui ont levé le bout de doigt pour mettre en branle son mode de gestion. C'est ça le problème. C'est, il ne faut pas qu'on puisse avoir peur de le dire. C'est ça vraiment la vérité.
Merci beaucoup, José. Vous êtes à Zongo et nous prenons Gabriel qui est à Kinshasa. On va terminer avec lui. Gabriel, vous êtes avec nous et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup,
monsieur. Vous avez la parole. Quel est votre avis?
Oui. Normalement, tenant compte de ce qu'a parlé mes prédécesseurs à propos de ce dossier de trois députés, nous trouvons qu'il y a un problème au niveau de l'Assemblée, parce qu'il y a beaucoup de problèmes que nous avons suivis autrefois, et du côté de la majorité, que l'opposition, bon, également, ne tenait pas tellement compte. Et aussi, dernièrement, nous avons suivi en Afrique du Sud avec le président Zuma là-bas. Il y a eu un problème, il y a un détournement de fonds alloués au gouvernement. Il a eu à construire sa maison privée. Mais il est arrivé que même les gens de son parti politique et même de l'opposition, maintenant, ils ont dit qu'ils puissent maintenant démissionner. Voilà l'exemple même de la vraie démocratie. Mais ici, chez nous, il y a un problème. Il fallait peut-être abandonner ce problème et laisser comme on a laissé autrefois pour les députés de la majorité qui avaient des coups et blessures qu'on n'a pas de compte à poursuivre judiciairement. Moi, je pense, à mon avis, il fallait que cela soit de cette façon-là. On abandonne les dossiers où l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, sanctionne à son niveau, au lieu que le PGR se saisisse encore des dossiers.
Merci beaucoup, Gabriel. On va lire quelques messages des internautes, disons des Lingoy, dit ceci à Kinshasa, quand Tshisekedi a interdit aux députés d'opposition, de l'opposition de siéger, soi-disant un temple de la démocratie, ils l'ont traité pour des coups et de tous les noms des oiseaux. Aujourd'hui, je demande aussi au procureur de la République d'enquêter sur le détournement de l'argent de l'État que le ministre Zolo Bambi venait de dénoncer dernièrement, au lieu de rester sur un dossier qui n'a pas d'impact sur la vie de la population. Héritier Moussana, depuis Kinshasa toujours, je salue cette démarche initiée par le Parlement pour poursuivre les députés. Jusqu'à cela, les députés qui se croyaient être intouchables. Sylvain Aguenot, il y a des mots majeurs dans ce pays. Je crains que nous acharnions inutilement contre nous et que ces actes je viens de découvrir ça, davantage nos esprits, les manquements et les infractions d'ordre public ne sont pas des bons exemples. Voilà, il y a beaucoup de messages. Il y a William Iluga de Kinshasa également, Alexis Lukweka, Aimé Mbala. Nous lisons aussi le message de Félix Malemba, Frédéric Chito, Christophe Ketchi et Oscar Kalala. Donc on ne saura pas tout lire. Voilà, nous revenons dans ce studio avec vous, François Dépuyer. Honorable François, donc vous avez suivi les uns les autres. Aujourd'hui, on peut dire que les dossiers suivent son cours normal.
Absolument, le CESUC suit son cours normal. Mais je crois que je dois quand même répondre à mon collègue Moutom qui parle de harcèlement politique. Je vous lirai simplement le dernier alinéa de la lettre portant autorisation d'inscription judiciaire signée par les présidents nationaux. Il dit ceci. Il va sans dire qu'à ce stade de la procédure, les honorables députés nationaux précités jouissent encore de leurs immunités parlementaires quant à leur liberté d'aller et venir, lesquelles ne peuvent être levées qu'après une nouvelle autorisation de la Chambre, conformément aux prescrits de l'article 77, alinéa 1er de la loi organique susmentionnée. Donc aujourd'hui, si le président de l'Assemblée nationale était de mauvaise foi, il aurait d'office autorisé à lever l'immunité, ce qu'il n'a pas fait. De deux, dit que la commission d'enquête existe et par conséquent on ne peut pas répondre au bruit dans le public, je vous ai dit encore, c'est faire obstruction à la justice. Et troisièmement, les faits allégués qu'il y a des collègues qui auraient écrit une lettre démontrant qu'ils ont été témoins de la position de la signature de l'honorable Yala sur le document de la pétition, ce sont des éléments constitutifs de leur défense. Et donc, ils n'ont aucune raison de s'inquiéter. S'ils ont la preuve que c'est l'honorable Yala qui a menti, qui verse ce document au niveau du procureur, qu'il donne ces éléments au procureur de la République, parce qu'il a un esprit et il va les rencontrer pour cela, qui donne ses preuves pour pouvoir se disculper. Et donc, l'effet de dire que la signature de l'honorable Yala s'est retrouvée sur un autre document, la question de savoir est-ce qu'il peut y avoir des parfaits imitateurs de signature. Ça aussi la question. Donc, en ce stade ici, il n'y a pas de raison de tergiverser. L'honorable Samy Badibanga, l'honorable Fabien Moutombe ou Mouino Nzangi sont libres de tout mouvement et Moutombe était avec moi en venir hier, personne ne l'a arrêté. Alors, à la fin, je voulais également intervenir sur une préoccupation, malheureusement, qui m'échappe pour l'instant, mais globalement, nous devons dire aujourd'hui que nous devons avoir la sérénité. Et nous devons, comme l'ont dit d'ailleurs beaucoup d'intervenants, accepter que la justice s'applique à nous tous. Parce qu'il faut le dire que nous, parlementaires, nous avons parfois des excès de zèle. Et nous brandissons parfois à tort et à travers les immunités que nous avons. Et donc aujourd'hui, je crois, ce que nous devons comprendre, et beaucoup d'auditeurs l'ont rappelé, que nous sommes égaux devant la loi. Tous citoyens. Nous ne sommes protégés que dans l'exercice de notre fonction. En dehors de l'exercice de notre fonction, nous ne pouvons pas commettre des infractions impunément et croire que nous ne pourrons pas être suivis par la justice.
Honorable François Ndékoué, merci d'avoir été et de l'autre, et surtout d'avoir fait les déplacements de ce studio pour analyser, réfléchir ensemble avec les auditeurs qui ont participé dans ces débats. On se retrouve très prochainement, peut-être dans un autre débat. Voilà, nous profitons pour dire merci également à Dieudonné Liangassa qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie. Julie Fézabongonda était au standard et Jérôme Gembo a eu le plaisir de coordonner et de présenter cette émission sous la supervision de Martin Sebou Jangoué. Bienvenue, comme je l'avais dit au début, et je vous laisse suivre le programme des radios au Capi. Et bonne condition d'écoute à toutes et à tous.